Avant de retrouver l'évangile de Marc, j'aimerais revenir sur une chose que j'ai dite la semaine passée et que j'aimerais préciser. J'ai dit que personne n'était jamais venu vers Jésus pour lui demander ouvertement s'il était le Messie. Alors c'est partiellement vrai, bien entendu, mais il y a Jean-Baptiste et son envoi d'un de ses disciples vers Jésus pour lui poser cette troublante question: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean pose donc la question de manière voilée, et elle peut étonner venant de celui dont le ministère introduit celui de Jésus. Comment est-il possible que Jean-Baptiste, qui a baptisé Jésus, qui a dit de lui qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, semble à présent douter? La réponse tient sans doute à ce que nous avons dit jusqu'ici de la pensée religieuse ambiante et de l'attente messianique du peuple juif. À l'instar de ses compatriotes et des douze, Jean croyait que le royaume viendrait avec le Messie. Et voilà qu'il ne vient pas. Et que lui, le prophète, la voix qui crie dans le désert, qui devait donc introduire le Christ dans son ministère, est en prison. Alors, ce qui me permet de dire cela, c'est que Matthieu rapporte cet élément éclairant sur la raison pour laquelle justement Jean se pose des questions. Or, dans sa prison, nous dit Matthieu, Jean avait entendu parler de ce que faisait Jésus. Mais que faisait-il ? Eh bien, il guérissait les malades, il posait des actes de miséricorde, alors que le Messie, selon Jean, devait manifester sa justice en punissant les impies et en purgeant le royaume des pécheurs, ce qu'il fera à son retour en gloire, bien entendu. Il ne punit pas, Jésus ne punit pas, il guérit, il prêche et il vit même dans le dénuement. Quelle étrange habitude pour un roi. Cela ne correspond donc pas au Messie et au roi qu'attendaient les Juifs, et Jean fait partie de ce peuple, on l'oublie peut-être souvent. Il n'échappe donc pas à cette vision des choses. Il faut aussi comprendre que Jean sait qu'il est celui qui ouvre le chemin à celui qui doit venir. Il a le sens de sa vocation, le sens de son appel. Et étant en prison, la réponse à sa question le concerne au premier chef. En effet, si Jésus n'est pas le Messie, il ressortira de prison, car cela signifierait que son travail n'est pas fini et que le Messie doit encore venir. En revanche, si Jésus est le Messie, il est probable qu'il ne sortira de sa cellule que pour aller vers la mort, car sa mission est terminée. De là aussi la réponse que fera Jésus à l'envoyé de Jean. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Jésus répond au prophète par les paroles d'un autre prophète, Ésaïe, qui décrit la première venue du Messie et du serviteur de l'Éternel. C'est donc de cette venue-là que Jean était le précurseur et non de la seconde, où Christ établira effectivement son royaume de justice et de paix. Jean pouvait donc partir en paix et sa mission accomplie. Je tenais à préciser ces choses. Revenons à l'évangile de Marc. Nous avions laissé Jésus dans la cour du temple où il avait pu assister à l'acte de générosité posé par une pauvre veuve, vous vous en souvenez, je suppose. C'est sur ce dernier fait que se conclut la dernière visite de Jésus au temple. Même s'il va encore enseigner bien des choses importantes devant se passer dans le temple et au sujet du temple. En effet, le chapitre 13 de l'évangile de Marc contient plusieurs prophéties non encore réalisées à l'époque, concernant le lieu saint d'Israël. Ce chapitre, ainsi que ces deux parallèles que l'on trouve en Matthieu 24 et Luc 21, fait partie des plus extraordinaires de l'Évangile, puisque Jésus va aborder ici l'avenir immédiat d'Israël, l'histoire du monde et son retour glorieux lors de la parousie. Je vous invite donc maintenant à prendre ce chapitre 13, c'est 37 versets à lire. Lecture un peu longue s'il en est, mais absolument nécessaire. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Puis il s'assit sur le mont des Oliviers, en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi ». et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. En divers endroits, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines et des troubles. Ce sera le commencement des douleurs. Faites attention à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur apporter votre témoignage. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abominable dévastation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas dans sa maison pour prendre quelque chose, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver. Car ces jours-là, la détresse sera telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus, de ceux qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici ou il est là, ne le croyez pas, car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper, si c'était possible, ceux qui ont été choisis. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel ni le Fils. Le Père seul les connaît. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Qu'il ne vous trouve pas endormi quand il arrivera tout à coup. Ce que je le dis à tous, restez vigilants ou en éveil. En d'autres termes, veillez. Alors ce chapitre, comme ceux de Matthieu et de Luc, les parallèles, hein, Matthieu 24, Luc 21, a fait couler beaucoup d'encre au cours des siècles. Alors pour faire simple, il en existe grosso modo trois approches, les principales. Première approche, Jésus parle uniquement des événements devant se produire dans la région, et ça ne concerne donc qu'Israël uniquement. Deuxième approche, Jésus ne parle ici que du temps de la fin, et cela concerne donc le monde entier, mais il ne parle pas spécialement d'Israël. Troisième approche, Jésus parle ici de ce qui doit arriver à Israël quelques années plus tard, et de ce qui doit se passer à la fin des temps, et fait également un court portrait de l'histoire du monde entre ces deux événements. Ça, ce sont les trois approches. Alors, votre serviteur est partisan de la troisième, et ce, pour une série de raisons que le format de ce message ne permet pas de développer. Il faudrait que vous potassiez par vous-même ou que vous me fassiez confiance, ou les deux, c'est encore mieux. Si ce passage parle effectivement de trois périodes, nous devrons donc discerner les éléments appartenant à ces différents moments, ce qui ne sera pas chose aisée. Mais commençons par le commencement et reprenons notre texte. Jésus sort du temple, traverse le torrent du Cédron et gravit le mont des Oliviers. C'est la route empruntée par Jésus et ses disciples pour retourner à Béthanie ou, comme le suggère Luc, pour passer la nuit sur le mont des Oliviers. Ce mont est aussi un endroit, nous l'avons dit lors d'un précédent message, d'où l'on bénéficie d'une vue exceptionnelle sur le temple. Aujourd'hui, si vous y êtes, sur le mont des Oliviers, voilà ce que vous voyez. Bah oui, les choses changent, hein. C'est bien ce dont Jésus va nous parler. Alors de nos jours, c'est la mosquée d'Al-Aqsa que l'on voit, puisque celle-ci a été construite à l'endroit même où se trouvait le temple, tout simplement. Donc voici une vue reconstituée de ce que les disciples ont probablement vu, eux, à leur époque. À titre personnel, je trouve que ça en jette un peu plus quand même. Alors il y avait effectivement de quoi s'émerveiller, hein, même s'ils avaient un peu l'habitude, depuis 3 ans qu'ils suivaient leur maître, de se promener aux alentours et même dans les parvis du temple. Pourtant, Jésus ne va pas vraiment partager l'enthousiasme de ses disciples, c'est le moins qu'on puisse dire, et il va préciser d'emblée que ce temple magnifique à tout point de vue serait détruit définitivement détruit. Si je dis ça, c'est que le temple bâti par Salomon de 966 à 959 avant notre ère avait déjà connu la destruction, hein, on l'a dit aussi, hein, par les armées babyloniennes en 586, donc moins 586. Puis ce fut le retour d'exil d'une partie des Juifs déportés en vue de reconstruire le temple, justement. Et la chose fut faite en moins 516. Le temple que fréquentaient Jésus et ses disciples en était une troisième mouture, embellie par le roi Hérode, à partir de 20 avant notre ère et terminée en l'an 60. Donc le stade final du temple, de l'embellissement du temple, voulu par Hérode le Grand, sera donc terminé plus de 50 ans après sa mort. Le temple d'Hérode couvrait environ, à l'époque de Jésus, 1/6 de la surface de tout Jérusalem. Donc c'est énorme. On ne se rend pas compte, là, c'est une photo, mais énorme. Les Juifs donnaient tellement, mais tellement pour son embellissement, parce que forcément ça coûtait de l'argent, que l'on recouvrait le temple de représentations diverses, comme des grappes de raisin, par exemple, en or massif, pas recouvert de feuilles d'or, non, en or massif, ça vous donne une idée. C'est assurément, mais on l'a déjà dit, une des 7 merveilles du monde, même si elle n'en faisait pas partie des 7 merveilles du monde, le temple. Dieu a visité son peuple en la personne de son fils, et son peuple ne l'a pas reçu, n'ayant même pas reconnu son droit légitime, par exemple, de purifier sa propre maison, parce que Jésus était un peu chez lui quand même dans le temple. Cette maison en question n'est plus qu'une caverne de voleurs, et je cite Jésus encore une fois, et le symbole donc d'une fausse religion, une distorsion abominable, reflétant un Dieu fait à l'image de l'homme, une idole donc, et l'idole doit donc être détruite. D'autant plus qu'une fois la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus entérinée et la Pentecôte venue sur les disciples, le temple de Dieu ne serait plus localisé en un endroit unique et géographique, à savoir le temple de Jérusalem, mais bien en chaque chrétien ayant cru par la foi en l'œuvre salvatrice de Christ et ayant reçu l'Esprit Saint. C'est ce que Paul dit par exemple en 1 Corinthiens 3. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et toujours dans la 1 Corinthiens, au chapitre 6, « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Le temple n'avait donc plus aucune raison d'être, puisque Jésus s'est fait pour nous sacrifice pour notre péché et qu'il est pour l'éternité notre grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek et non plus selon l'ordre lévitique. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Ce sacrifice suprême ayant été proposé non sur l'autel du temple de Jérusalem, mais bien dans le sanctuaire céleste même. Toujours d'après Hébreux. C'est d'ailleurs après que Jésus leur a fait cette terrible prédiction concernant le temple, donc il va être totalement détruit, que Pierre, André, Jacques et Jean, donc ses plus proches disciples, lui posent la question que tout le monde aurait sans doute posée à leur place. Moi, je pense que je l'aurais posée. Dis-nous, tout ce que tu viens, hein, dis-nous donc ce temple qui sera détruit, dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements vont s'accomplir ? Ah ouais, peut-être sympa d'avoir quelques petites indications. Alors Jésus n'a pas donné une date précise, mais bien évoqué une série d'événements et de phénomènes qui marqueront l'histoire du peuple d'Israël et l'histoire du monde, ainsi que son retour en gloire. Donc, d'après moi, on trouve les trois éléments regroupés dans le passage de Matthieu 13 que nous avons lu. Marc 13. Il y a donc dans ce que dit Jésus une volonté d'imprimer à ses paroles une surimpression de deux fins qu'il évoque ici. Il évoque deux fins, en fait. Ces deux fins sont la fin du monde juif, si vous voulez, et la fin du monde tout court. La fin du monde juif, comme on l'entend à l'époque, bien entendu, et la fin du monde tout court. Alors, cette association est profondément riche de sens, car elle reflète la fonction d'Israël comme représentant de l'humanité, que ce soit dans la grâce ou le jugement, parce qu'Israël a connu les deux, et l'importance donc théologique de la ruine du temple. Ce qui signifie que Jésus ne tente pas ici de donner une chronologie des événements. L'expérience d'Israël est en quelque sorte en microcosme l'expérience du monde. Vous me suivez ? Israël était jugé par Dieu et sa fin en tant que peuple le représentant est actée par la destruction de ce qui en faisait le symbole, le temple. C'est terminé. D'accord ? Alors le monde sera lui aussi jugé par Dieu de la même manière et subira les conséquences de ses actes. C'est en substance le même principe qu'énonce Pierre en 1 Pierre 4, 17-18 lorsqu'il écrit, et je vous lis ce passage, « En effet, c'est le moment où le jugement commence et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous, il parle des chrétiens là, or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ? C'est donc d'abord le peuple de Dieu qui passe en jugement avant le reste du monde, et c'est ce qui se passe pour Israël. Ce qui me fait dire qu'au moment où je parle, Israël en tant que nation, je dis bien en tant que nation, fait depuis ce jour terrible de la destruction du temple partie du monde, en ce qu'il est passé du peuple évangélisateur à peuple à évangéliser. Il faudra justement attendre le retour de Jésus-Christ en gloire et la fin de ce monde pour qu'enfin Israël accueille et embrasse.